Attends, deux. Bien, merci d'être ici avec nous. Oui, nous avons organisé cette session. Nous sommes un peu arrêtés à San Francisco, mais nous avons organisé cette session au cours des deux dernières réunions de ICANN. Notre objectif est de toucher différents secteurs de la communauté pour expliquer ce que nous faisons et pour recevoir vos contributions. Donc, j'espère que ce sera une session interactive. J'ai quelques diapositives à vous présenter. Hein, c'est à vous de voir si ça vous intéresse ou pas, mais c'est seulement pour. Je pense que nous allons vraiment aborder un thème qui va vous intéresser, je pense. Hein? Bien. Alors, quelques explications sur ce que nous faisons et qui nous sommes. Excusez-moi. Donc, l'affirmation des engagements à travers laquelle ICANN évolue hein, vers un État plus autonome a permis à ICANN de réaliser une série de révisions. La première était l'équipe de révision de transparence et qui devait faire son rapport l'année dernière au mois de décembre. Cette équipe donc de révision de WHOIS en est une autre, une autre de ces équipes de révision qui figure dans les engagements, dans l'affirmation des engagements. Et nous avons travaillé donc pendant 6 mois. La première étape que nous devions faire était définir la portée de notre travail, voir comment nous allions y parvenir et développer une action et un programme de sensibilisation et définir les termes clés. Alors, pour résumer notre portée de travail, on nous a demandé dans les affirmations d'engagement d'évaluer dans quelle mesure ICANN avait cette politique de WHOIS et comment il allait penser la mettre en œuvre. Est-ce que c'était efficient? Est-ce que cela allait donner lieu vraiment à une confiance de la part des consommateurs et l'application de la loi? Donc, il y a différents éléments qui concernent ici cette approche, principalement voir la politique d'un côté, comment elle se traduit par des politiques sur le terrain d'application des lois et de la confiance ou visant la confiance, à développer la confiance des utilisateurs. Donc, nous avons mis une définition, nous avons commencé à travailler au mois de mars et maintenant, ça fait déjà 6 mois que nous travaillons et nous avons essayé d'articuler les principaux problèmes dans le domaine des politiques et de la mise en œuvre de la façon la plus simple possible. Et ce rapport concernant les problèmes que nous avons rencontrés va être publié. Et c'est un petit peu le cadre de travail sur lequel nous avons basé notre analyse. D'abord, nous voulons donc une réponse de la LAC. Ensuite, nous voulons savoir s'il y a des questions importantes que nous avons oubliées d'explorer dans le détail. Et les diapos que je vais vous présenter sont des questions que nous nous sommes posées. Le contexte de ces questions est défini dans le rapport de façon brève. La première, donc, concerne les politiques. Et ensuite, les autres, la mise en œuvre. Donc, ce que je vais faire, c'est vous montrer ces questions. Et si vous avez quelque chose que vous ne comprenez pas, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, la première. Excusez-moi, ne voulais pas vous interrompre. Olivier Crépin-Leblond prend la parole. Donc, il vous faut les personnes qui interrompent pour demander des détails devront donner leur nom aussi, s'il vous plaît. Bien. Donc, la première chose que nous avons essayé de définir était d'identifier la politique. Et parce que c'est important pour notre travail, c'est la base, le point de base. Nous avons compris les raisons pour pour laquelle cela avait lieu, parce que ça, c'est une, quelque chose qui s'est adapté à l'élaboration d'ICANN. Il y a un point qui est important, qui est la déclaration de politique. Il y a 3 ou 4 politiques de consensus qui ont été développées. Nous les avons trouvées. Et donc, la première question est quelles sont les mesures qu'ICANN devrait prendre pour éclaircir sa politique WUIS actuelle. Et puis, nous avons constaté que dans les affirmations d'engagement et selon les principes du GAC, il y a des déclarations concernant la politique. Et nous avons voulu voir quelles étaient les interactions. Est-ce qu'il y avait des différences? Est-ce qu'on pouvait nous donner des orientations dans ce domaine? Donc, vous avez la parole. Bien. 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 Je vais essayer de faire ce que nous a demandé de faire le président et dire mon nom. Donc, Sharon Langenor, le fait que j'aimerais et parler du développement de la politique. Et c'est un document qui est important parce que c'est un document qui n'était pas vraiment exclusif, qui regardait les choses d'un point de vue particulier, d'un cadre approprié au moment et dans le lieu approprié. Mais je suggérerais, de mon point de vue, et qu'il y avait un grand nombre. Il y a beaucoup de choses qui ont changé depuis sur Internet. La sécurité, les risques de sécurité, par exemple, ont évolué. Et l'équilibre entre la sécurité et les questions de vie privée ont changé. Il y a suffisamment de gens qui pensent qu'ils sont complémentaires, que ces deux questions sont complémentaires et qu'elles sont importantes. Donc, il y a une série de débats, d'autres ne sont pas tout à fait d'accord, mais bon, il y a des débats à travers la communauté dans son ensemble et nous allons voir comment multiplier ces débats et au niveau des noms de domaines internationalisés, les questions techniques, tout cela, et voir aussi la possibilité d'avoir l'utilité de WHOIS qui soit réelle pour les scripts non ASCII. Et puis, je ne veux pas monopoliser la parole, mais je pense qu'il nous faut aussi reconnaître que nous avons abordé la question du point de vue, d'un cadre de point de vue de l'abus de DNS. Et je pense que à ce point-ci, c'est le début seulement des différents domaines qui nous amènent à penser que ICANN peut continuer à évoluer de façon à suivre des étapes très importantes et surtout concernant le programme des NoGTLD. Hein. Bien, merci, Cheryl. Est-ce que vous dites oui, ICANN devrait prendre des mesures pour éclaircir la politique et vous dites qu'il faudrait que l'on fasse cela au niveau de la communauté et qu'il faudrait revoir la politique de WHOIS. Oui, c'est ce que je dis, Cheryl, de nouveau. Nous avons ici une opportunité de voir la structure et les fonctions de ce qui est un groupe de travail de GNSO. Et donc, je pense que nous avons ici l'occasion de considérer l'apport de la communauté. Et je pense que cela peut être bénéfique pour WHOIS parce qu'on va trouver toujours des gens qui vont être d'un côté ou pour ou contre, mais il faut parvenir à une majorité, hein, et ça, c'est important. Merci. Donc, on passe à la prochaine question. Il y a une série de questions ici liées à la question du respect de la vie privée. Je pense que les questions suivantes, La 4, la question suivante l'exprime mieux. Comment ICANN peut-il équilibrer les soucis concernant le respect de la vie privée de certains registrants avec ses engagements d'avoir des données WHOIS complètes et exactes publiées de façon et qui soient accessibles sans restriction? Un des aspects dont nous sommes très conscients est la croissance de la popularité des services proxy de respect de la vie privée qui sont apparus et qui veulent être autorisés par des politiques et qui veulent donc jouer ce rôle. Ils ont beaucoup de succès. Donc, comment est-ce que le rôle de ces différents aspects se complètent les uns les autres? Est-ce qu'il y a quelque chose que nous pouvons apprendre, des bonnes pratiques, par exemple, des personnes qui essayent de résoudre le même type de problème? Est-ce qu'il y a des contributions qu'ils pourraient faire dans ce domaine sur ces questions? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Carlton, Samuel? Carlton, oui. Il y a dans la communauté des tensions qui existent entre le respect de la vie privée, les menaces. Hein, la vie privée est définie par une section de la communauté comme le droit à savoir. Pour tout ce qui concerne les interactions entre les membres de la communauté en termes de transactions commerciales, etc., le problème pour nous, c'est un problème de deux types. D'abord, si nous acceptons que la construction originale de WHOIS est encore importante, est encore utile, est encore pertinente, hein. À ce moment-là, il y a deux besoins. Le premier, deux nécessités. Hein. La première, il faut regarder comment on peut mettre en œuvre les nécessités qui existent pour WHOIS depuis le début, hein, recommencer au début. Et puis cela aussi nous amène à essayer de voir ce que les personnes décident concernant les problèmes de respect de la vie privée. Est-ce que c'est supérieur à cette construction? Et comment est-ce que l'on tient compte de tout cela? Il nous semble donc qu'il y a des nécessités minimales qui sont nécessaires ici, des prérequis minimaux qui sont nécessaires pour donc répondre à ce droit à savoir. Hein. Il y a donc prérequis minimums, mais je ne sais pas comment nous allons pouvoir résoudre cela. Est-ce que vous pouvez aller un peu plus loin et nous dire ce que sont pour vous ce minimum requis, hein? Je ne demande pas cela au nom de ALAC, mais à partir du moment où on réunit votre contribution, vos apports, je suis intéressée et je voudrais savoir. Oui, je comprends. C'est une réaction personnelle. Je ne parle pas, c'est moi qui parle, hein, je ne parle pas au nom de la communauté que je représente. Ce n'est pas le point encore auquel nous en sommes pas encore là, disons. Ce que l'on appelle, c'est quelque chose, c'est un prérequis, hein, minimal. Hein. Il faut savoir qui sont les personnes, leurs adresses, pour pouvoir les joindre. Savoir, il y a aussi des questions à savoir comment est-ce que c'est constitué. Est-ce que c'est une adresse? De quel type d'adresse? Adresse e-mail? Est-ce que cela doit être constitué par un numéro de téléphone? Etc. Donc, je pense que c'est raisonnable que vous ayez ces trois types de coordonnées, de données sur les personnes. Hein, si on est en ligne, je pense que vous devez avoir une façon, hein, de joindre la personne en ligne. Donc, l'adresse e-mail est nécessaire et peut-être plus que le numéro de téléphone. Donc, je pense que l'adresse est aussi quelque chose de raisonnable. Donc, pour moi, c'est suffisant, hein, ces trois informations concernant la personne seraient suffisantes. il y a un secteur important de notre communauté qui pense que pour l'application de la loi et tout ce que l'application de la loi requiert, on a besoin d'aller un peu plus loin, pas aussi loin que les prérequis qu'il appelle SIC, mais il faut pouvoir identifier rapidement la personne. Donc, il faut avoir toutes les données et les informations vous permettant de pouvoir le faire. Voilà. Merci. Bien. Est-ce qu'il y a d'autres commentaires sur ces questions? Olivier? Oui, Olivier Crépin-Leblon. J'allais... Et puisque nous avons ce panel, ce large panel de représentants du monde entier ici, on voudrait demander à chacun, on pourrait demander à chacun des membres du panel ce qu'ils pensent de cette question. Qui sera notre premier? Qui veut prendre la parole d'abord? Sergio, est-ce que vous voulez nous dire, vous, quelle information vous pensez qui est l'information minimum nécessaire pour le WHOIS, pour le registre WHOIS? Alors, mettez vos écouteurs. Si vous ne parlez pas l'espagnol, mettez vos écouteurs. Elle donne le canal, le numéro de canal pour l'anglais. Sergio, vous avez la parole. Sergio Salinas. Très bien. Bonjour à tous. Donc, je suis Sergio Salinas, comme l'a dit Olivier. Je ne sais pas s'il faut ajouter quelque chose de plus à ce que Carlton a déjà dit, mais sans aucun doute, il y a des prérequis qui sont nécessaires et qui sont liés justement à cette question de la... Des questions supplémentaires que l'on pourrait ajouter à celles qui existent déjà. Je pense qu'il serait important d'avoir davantage d'informations sur tout ce qui concerne les TLD, les CCTLD. Bien, merci Sergio. La question, la personne suivante, David. David Antoloxin. Je pense qu'une révision de la façon dont fonctionnent les country codes, les codes de pays, est nécessaire. Je pense que il y a une grande variété de différences CCTLD, de la façon dont ils implémentent cela. Par exemple, mon CCTLD n'offre pas de WHOIS du tout. Donc, il y a une grande gamme. La façon dont les CCTLD sont implémentés, les prérequis pour... le respect de la vie privée, l'application, le respect de la loi. Merci. Maintenant, Dave Kissendorf, vous avez la parole. Lorsque vous parlez de service proxy, est-ce que cela signifie que le service doit être payant? Et dans ce cas-là, les pays en voie de développement sont désavantagés par rapport aux pays qui peuvent le payer. Nous parlons de façon générale. Il y a une étude qui a été menée par le service de conformité d'ICANN pour l'utilisation de services proxy. On n'a pas encore défini cela, mais ce qu'on a dit, c'est que le service de respect de la vie privée permet d'identifier les registrants et les détails de l'adresse, etc., de la personne. Il y a un service proxy qui peut être payé ou payant ou pas, mais parce qu'il n'y a pas de règles à ce propos sur la façon de le faire. Donc, ils ont constaté qu'il y a des services payants fournis par certains registraires. Il y a aussi des façons informelles d'offrir ce même système de services, hein, ce même service payant ou pas payant. Voilà, c'est la réponse à votre question. Merci. Tijani, maintenant, vous avez la parole.
OK, thank you. Oui, en français. Bien sûr, le maximum d'informations serait le mieux dans ce domaine-là. On devrait avoir le maximum d'informations pour les WIS. Bien sûr, tout en gardant dans l'esprit le respect de la vie privée des gens. Donc, y a des moyens utilisés à pouvoir concilier les deux aspects. Mais je pense que le plus d'informations que les CCTLD peuvent donner serait le mieux ça permet donc d'avoir une idée, pas une idée, mais dans le cas de nécessité, pouvoir faire le suivi nécessaire dans les cas où c'est nécessaire.
Thank you. Next.
Merci. Ensuite, Aziz Helali.
Petite question concernant l'internationalisation du système d'OIS. Est-ce que votre équipe travaille dessus?
Il y a un groupe de travail qui analyse cette question en particulier. Notre rôle est de voir la mise en œuvre et la politique actuelle de WIS. Nous savons que l'internalisation des noms de domaine, également des dossiers de WIS et des données WIS, est un problème. Par exemple, il y a une étude de précision de WIS qui note que l'une des raisons actuelles courante est une mauvaise translittération ou traduction entre ASCII et Unicode. Donc, est-ce que je réponds à votre question? Ici Bill Smith. En tant qu'équipe, nous avons analysé l'internationalisation concernant la question de la confiance du consommateur. Je ne parle pas au nom de la commission ici, mais à titre personnel, je crois qu'il y a un problème en ce qui concerne WIS, vu qu'il y a des domaines, noms de domaines internationalisés, et nous n'avons pas de WIS internationalisé. Et d'une perspective purement technique, en tant que technicien, c'est un énorme fossé. Je sais qu'il y avait une pression pour avoir des domaines internationalisés, mais le fait que les protocoles et autre chose ne correspondent pas, c'est un très gros problème. Merci beaucoup, Bill. Nous passerons à la prochaine personne, Don Michel Jonang.
Olivier, ma petite question concerne un peu les acteurs sur le terrain. Je remarque qu'on réfléchit plus sur la politique globale, mais je voudrais juste savoir comment est-ce que vous imaginez l'appropriation du projet une fois que nous aurions lancé le processus sur le terrain, que ce soit au niveau du gouvernement ou au niveau de la société civile qui reste très active par rapport à ces questions-là.
My apologies. Could you clarify the question and what it may well be the translation, but
perhaps Cheryl, for the record, Michel, just see whether
Paul. Voyez si je vais vous montrer l'interprétation de ce que vous avez peut-être voulu dire, si j'ai bien compris. Ce que j'ai compris, c'est que il y avait un projet Donc j'imagine le lancement GTLD et les IDN, mais moi j'ai pensé que vous vouliez dire ceci. Ces affaires de confidentialité, de respect de la vie privée en ce qui concerne de l'équipe d'examen de WHOIS, est-ce que c'est le mandat ou bien les problèmes que différentes parties de la communauté en dehors de ICANN, telles que la société civile et les gouvernements, ainsi que où ceux-ci sont représentés au sein de ICANN. Et je crois que j'ai compris peut-être que c'était un problème d'interprétation. Donc peut-être, est-ce que vous pouvez reformuler votre question et vos préoccupations? Ça nous aiderait tous. Merci.
Ma préoccupation se situe au niveau de l'engagement, en fait, de la responsabilité. Si on a pensé à la responsabilité des acteurs qui seront engagés dans ce processus-là en vue de leur sécurisation. Voilà, pour résumer mes propos.
Je crois que pour la question de le rôle des différents acteurs, c'est une question très appropriée dans ce contexte. Et l'une des choses dont nous sommes conscients, c'est que bien que nous soyons dans les différents groupes constitutifs au sein de ICANN pour avoir vos informations, il y a le monde qui n'a jamais entendu parler d'ICANN ou peut-être de WHOIS. Et cependant, c'est une communauté très importante, très pertinente, surtout pour notre mandat, notre portée, qui est d'analyser le problème de la confiance du consommateur. Et cela dit, à part le fait de ce qu'on peut vouloir vraiment dire, qu'est-ce que ça veut dire la confiance du consommateur? Et les choses qui peuvent faire dérailler la confiance du consommateur, on vient d'avoir l'approbation du budget, c'est d'entreprendre une étude en dehors de la communauté ICANN dans 10 pays différents pour s'assurer que nous contactons les gens qui peuvent nous dire qui ne sont pas les gens de l'intérieur et peut-être qu'ils ne connaîtraient pas toute la terminologie, mais qui pourraient toutefois avoir été influencés, impactés parce que leurs données, les abus et qui ont des informations à nous donner sur comment les politiques WHOIS et la mise en œuvre des politiques les influencent. J'espère que j'ai répondu à votre question. Je crois qu'on peut passer à la prochaine personne. Et Sylvia.
Alors, je m'appelle Sylvia Herling. Je voulais faire un commentaire parce que je pense que c'est une question très importante pour la sécurité et le respect de la vie privée. Je pense que c'est une question que la société civile doit pouvoir, à laquelle la société civile doit pouvoir s'intéresser et cela aussi pour les CCTLD. Merci beaucoup. Une série de personnes ici ont voulu revisiter la question des CCTLD pour voir les différentes mises en œuvre, les différentes implémentations au niveau géographique. Donc oui, vous avez raison. Maintenant, je pense que nous allons passer à la prochaine question. Non. Charles voudrait ajouter quelque chose ici. Il n'y aura pas de surprise si je vous dis que je dois parler de la vision australienne des CCTLD, mais c'est aussi peut-être utile de savoir que on engage la société, la communauté CCTLD au-delà de ces questions. Et je suis étonnée quand j'entends les soucis, les questions de ce côté de la table. Par exemple, le fait que l'on peut avoir un système d'adressage qui n'est pas obligatoirement qui ne contienne pas obligatoirement l'adresse du registrant, et dans certains pays il y a des réglementations plus strictes comme le mien où il y a ce qu'on appelle l'adresse du bureau du registre qui est obligatoire, mais il y a aussi par loi le droit avec les justifications pour le faire. On peut aller
si une personne peut rentrer, demander le site, l'adresse du site, peut demander les coordonnées d'un registre ou d'un registrant, demander l'email, demander les coordonnées de cette personne et pour le joindre. Donc, on a un site dans lequel ces informations sont disponibles et cela est donc réglementé de façon claire. Et je pense que ça peut être utile pour tout le monde. Et je suis aussi surprise de voir qu'il y a des possibilités dans le monde entier au niveau des réglementations telco. J'ai passé beaucoup de temps de ma vie à penser aux problèmes d'ICANN. Et lorsque je ne le fais pas, je travaille au niveau de la défense des consommateurs dans mon pays. Et nous avons vu des questions comme, par exemple, vous avez votre numéro de téléphone que vous ne voulez pas et qu'il figure dans un annuaire public. Hein. Et c'est la même chose pour les registres. Hein. Vous pouvez donc... Mais la personne qui veut... qu'on ne l'appelle pas de cette base de données, cette personne peut être supprimée, mais à ce moment-là, des conséquences importantes vont entrer en jeu. Donc, en fonction des pays, on a différents types de réglementations qui peuvent exister, qui peuvent être appliquées. Voilà ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Maintenant, la prochaine question concerne la partie donc de la conformité, les activités de conformité. Alors, on attend ici beaucoup de contributions des registraires et des registres. Hein? Et je suis intéressée, avant de passer au détail de cette question, c'est Alak a des commentaires, une expérience à partager avec nous, des commentaires à faire. S'il vous plaît, faites-nous savoir si c'est le cas. Carlton Samuel, vous avez la parole. Carlton Samuel, en ce qui concerne cette question, je dirais que oui, nous avons beaucoup de choses à dire. Nous avons beaucoup d'intérêt et d'expérience dans ce domaine, dans le sens général d'abord. La LAC a toujours eu pris une position qui est la suivante. S'il y a un accord général, à ce moment-là, l'application doit être faite et la conformité doit être requise. Ce serait un principe général qui a été notre position pendant longtemps. Est-ce que je peux vous demander comment cela s'accorde avec votre expérience? Eh bien, je dirais que nous ne pensons pas que la conformité... Et la conformité a été un petit peu... En fait, nous pensons que les mécanismes qui sont employés par ICANN sont une des raisons du problème. Voilà ce que nous pensons. Est-ce que vous pouvez m'expliquer un petit peu plus? Bien. D'un côté, la conformité, les actions de conformité, les comportements, l'infrastructure qui est requise pour la conformité n'a jamais existé. C'est notre point de vue, en tout cas. Et on n'a pas vraiment traité les points qui étaient nécessaires pour assurer cette conformité. C'est le premier point. Les mécanismes qui permettent de voir si la conformité est faite sont trop pauvres, ces mécanismes. Nous avons eu une réunion ce matin, par exemple. Et nous faisons cela tous les ans. C'est sur l'ordre du jour d'ALAC tous les ans. À chaque réunion, nous nous réunissons et nous recevons l'équipe de conformité qui nous fait des commentaires, etc. Ce qui est cohérent, et c'est notre réaction dans toutes ces réunions, c'est que nous n'avons pas la largeur de bande pour faire ce qu'on doit faire. B, les processus que vous appliquez ne permettent pas de réaliser le travail correctement. Et dans notre communauté a offert de regarder, d'analyser les processus. Et nous nous sommes portés volontaires pour fournir notre aide pour qu'ils deviennent plus efficaces dans ce sens. Et nous avons proposé de fournir les données, d'examiner les prérequis pour s'assurer que ces registres donc étaient conformes ou pas. Est-ce que vous pouvez nous aider et nous donner votre vision concernant les activités de conformité, les raisons pour lesquelles elles ne sont pas aussi efficaces qu'elles devraient l'être? Est-ce que vous pouvez nous donner une impression de ce qui cause cela, ce qui provoque cela de votre point de vue?
Well, I wish...
Je vais intervenir. C'est vraiment le manque de confiance, Cheryl Langdon, au fin d'enregistrement. Et ce que nous devons reconnaître, c'est que nous devons également établir les mesures de cette confiance. Nous avons, par exemple, des séries de données qui parlent de portails qui sont ouverts ou non. Cela ne signifie rien en eux-mêmes. Nous devons voir la valeur des paramètres, des mesures, et pas seulement les mesures brutes. Et notre liaison dans la pièce, ce qu'elle aurait fait, c'est pas. Maintenant, je contacte Alan Greenberg, par exemple, dans cette discussion sur la conformité, et je dois vous arrêter et ici voir combien c'était excitant et qu'on était tellement enthousiasmés à la suite du discours que nous avons eu aujourd'hui, où nous voyons un potentiel d'une nouvelle méthode, de nouveaux mécanismes et de nouvelles séries de systèmes d'administration qui sont introduits. C'est très bien, mais nous sommes assez cyniques pour voir. On veut voir la preuve. Donc, quand on veut voir tous ces changements se matérialiser, et Alan a dit souvent que ce serait très bien d'avoir une communauté dans laquelle nous ne faisons pas que payer les factures de la rationalisation pour certaines de ces démarches. Nous savons que ce n'est pas le cas. C'est vraiment une grande tâche. Donc, corrigez-moi si j'ai tort. Septembre, octobre 2010, c'était la dernière fois, par exemple. En octobre 2010, merci Carlton, c'est la dernière fois qu'un bulletin, une mise à jour, on sait que ça va s'améliorer, mais est-ce que notre communauté a des préoccupations? Absolument, mais nous devons que savoir que nous mesurons les bonnes choses. Donc, et clairement, vous avez fait mouche ici. Et pendant qu'on préparait pour se rencontrer avec vous, on a pensé que les aspects de la confiance du consommateur, c'est quelque chose que vous pourrez nous aider à mieux comprendre, et c'est très utile. Donc, même si nous ne passons pas en revue les autres diapositives, j'aimerais continuer à explorer cette question avec vous. Clairement, vous avez mentionné les paramètres, les mesures, l'impact d'une démarche, d'une réaction particulière. Et pouvez-vous partager avec nous où vous en êtes? S'il y a une chose que vous pouvez faire un grand impact pour améliorer la confiance du consommateur WIS et la conformité, quelle serait cette chose? Ou c'est trop difficile à répondre comme ça? Ou bien ce serait quelque chose peut-être pour une réponse à l'écrit? Olivier Crépin-Leblond, I think si on doit faire une première dommage en ce qui concerne WIS, c'est de le rendre dans le mainstream, pour que les gens connaissent l'existence. C'est très bien de l'avoir, mais demander à n'importe qui s'ils savent ce qu'est WHOIS ou s'ils pourraient savoir à qui un nom de domaine est enregistré, ils vont dire who is quoi? C'est quoi who is et c'est qui, c'est quoi, comment y arriver? Si je fais whois.com, est-ce que j'arrive à un résultat? Donc, c'est la première chose, c'est bien d'avoir ce whois, comme vous l'avez dit, qui préexiste à I can. Mais pas beaucoup de gens dans cette pièce connaissent, c'est encore confidentiel, et le nombre de gens qui l'utilisent également. Cheryl Langdon, pour suivre, qu'est-ce que whois a un point dans le temps doit être discuté, qu'on a vu dans le groupe de recouvrement de post-expiration de nom de domaine. Il y a différents points. Il est très peu probable qu'un consommateur, et encore moins un registrant ne sera pas un consommateur. C'est sûr qu'il ne sera pas, ce que cela veut dire. Et beaucoup des problèmes qui... ont été soumis à ce groupe de travail, c'était quand les données changent dans Whois et la confusion qui se produit pour le registrant. Mais je crois que c'était ça, c'était pour moi. Et, mais qu'est-ce que ça dit? Donc, on devra peut-être faire davantage d'éducation et de outreach au niveau du registrant et du consommateur pour renforcer la confiance nécessaire. Mais une chose qui est importante, c'est que au moment, dès que nous avons des rapports, et on parlait de la confiance du consommateur, au moment, lorsque nous avons des rapports, par exemple, qu'un registre, nous comprenons les conséquences, mais lorsqu'il y a un problème avec le registraire, on ne sait pas pourquoi. S'il s'agit que c'est un grand chapeau noir, ou bien est-ce que, on sait qu'ils sont partis, mais qu'est-ce que cela veut dire pour les registres, pour les revendeurs? Donc, il y a beaucoup d'explications aux consommateurs quant à ce que ces choses sont et leur définition. Merci. Et c'est vraiment difficile pour que cela intéresse les consommateurs. Lutz veut venir à distance, je pense. Lutz? Oui? Allez-y. Bonjour tout le monde. J'aimerais ajouter qu'à Alak doit mentionner que beaucoup de consommateurs ne connaissent pas Whois parce qu'ils n'en ont pas besoin et qu'ils attendent que la législation locale, que leurs données personnelles ne soient pas publiées. Donc, nous avons une distinction entre les bios, les acheteurs et les vendeurs. Si vous regardez l'Internet comme une institution purement commerciale. Il y a des attentes du consommateur qu'il pourra obtenir des informations au sujet des sites web dont ils achètent des marchandises, mais en même temps, ils s'attendent à ce que leur propre identité ne soit pas publiée et nous devons être en mesure de le faire. Merci, Lutz. Vous voulez faire un commentaire? J'ai une question rapide. Je ne comprends pas exactement ce que vous voulez dire en disant le timing le timing des séries de données à différents moments. Voulez-vous élaborer? Nous avons la position sur la confiance du consommateur. Il faut tenir compte de cela. Et un consommateur ne fournit pas de services sur l'Internet, mais qui utilise d'autres services. Donc, par exemple, il achète des marchandises d'un magasin et il s'attend à avoir la capacité de prouver l'identité du propriétaire du magasin, mais même sur l'Internet, mais d'autre part, il a un intérêt à que ce... Il veut rester anonyme sur l'Internet et sur le système Internet. Il n'y a pas de distinction, mais les attentes à ce qu'il y ait cette distinction. Donc, le service Whois doit être divisé entre quelqu'un qui offre des services et quelqu'un qui n'offre pas de services. Mais cela modifierait tout le système Internet pour le transformer en réseau très différent comme CompuServe ou bien Asian Times. J'aurais dû clarifier, mais c'était la. Merci Lutz pour la réponse. Mais ma réponse était dirigée à Carlton. Donc Carlton, en fin d'enregistrement, pendant la période, il y a différentes exigences de séries de données qui se rapportent à répondre à la question de Whois, et ça a changé au fur et à mesure. Des moments où il y a des changements dans les séries de données, il y a eu des inflexions, déflexions dans les séries de données, pas d'explication quant à la raison pourquoi cela se produisait. Et donc, il aurait été utile pour qu'il y ait une publication complète. Qu'est-ce qu'une série de données Whois est à un moment donné et pourquoi? Il me semble que c'est intéressant parce que le même argument a été présenté à nous par ESSAC ce matin qui travaillait sur une précision dans le texte de Whois pour qu'on soit clair lorsqu'on parle des données, du protocole et des services. Et ils ont présenté le même argument sur le fait que la mise en œuvre des services, qu'il n'y avait pas de série de données standard et que la mise en œuvre des services n'est pas standardisée. Merci beaucoup pour avoir soulevé cette question. Et nous avons quelques minutes. Au moins, je vais vous voir les autres questions. Nous avons avancé quand même pas mal. C'est assez choquant par rapport à d'autres sessions. Mais il y a beaucoup d'informations sur l'acuité des données. Et je suis sûre que vous avez beaucoup à en dire là-dessus. Sur des leçons à tirer des CCTLD, on a plus ou moins discuté de la question. Les obstacles et les coûts à la conformité, comment ils sont perçus, les conséquences de la non-conformité, quelque chose que nous avons analysé et qui était très utile, une perspective très utile sur la confiance du consommateur. Et pour terminer, est-ce qu'il y a des choses auxquelles nous devrions penser que nous avons peut-être oubliées? Sharon? Cheryl Langdon Orr mon président m'a introduite et a éteint mon micro. C'est tout ce que je voulais dire. Donc, je peux te détester pour toujours. Ce sera archivé. Mais je veux parler sur les coûts. Je veux parler des coûts. Merci, Olivier. Et beaucoup de gens du bout de la protection des consommateurs, on sait qu'il y aura des coûts et que ce sera nous parce que les coûts seront transférés. S'ils ne sont pas transférés, alors il y aura probablement une grande différenciation du marché pour qu'ils ne soient pas transmis. Et ça signifie que nous achetons des services à d'autres coûts plus importants, pour compenser. On sait qu'on va payer pour les coûts de toutes les façons. Et Cheryl, vous dites que vous êtes heureux. Beaucoup n'ont pas le choix, que ce soit 7, 50 et 11, il n'y a rien de différence. Et alors qu'on veut tout simplement avoir un nom de registre licencié, accrédité pour une période d'achat. Donc, selon votre perspective, les problèmes se rapportant des choses comme la cuité des données, les choses dont on parlait de regroupement, de paquets, sont plus importants que d'avoir un nom de domaine économiquement. Juste faites-le tout simplement, c'est tout. C'est tout ce qu'on vous demande. Et cela dit, sur ces mots de sagesse, j'aimerais renvoyer une question plus Bill Smith, au fait. J'ai eu l'impression que lorsque vous parliez de séries minimales d'informations, comme exemple les numéros de téléphone, c'est peut-être pas forcément. Il y avait une suggestion. La question que je pose est le temps de réponse. en utilisant les informations WHOIS ou d'autres informations, quelle est la position de ALAC en termes de temps de réponse pour ce qu'on appelle en général, dans une entente, le SLA, l'accord de niveau de service, combien de temps est-ce qu'un registre devrait répondre aux questions ou aux problèmes? Est-ce que vous avez des idées là-dessus? Étant donné que nous opérons l'Internet, je pourrais aller dans Lutz va intervenir là-dessus, mais si je fais des heures normales ou un site de hameçonnage est là, donc est-ce que ce serait problématique? Donc quelles sont vos impressions sur les temps de réponse en termes de sécurité? Ce n'est pas quelque chose que nous avons discuté. Beaucoup d'entre nous disent « Oh, ce serait très bien d'en discuter ». Donc vous dites « On va travailler là-dessus, merci, mais ma réaction première, c'est que ce sera différencié entre le registre registré avec des exigences plus courtes et le registrant qui devrait s'assurer qu'il comprenne le contrat, que des choses ont été mises à jour avant l'expiration de leur accord. Sinon, si ça ne se passe pas, tant pis. Mais c'était ma réaction première. Il faudrait analyser cela et on voit comment la dissimulation de données peuvent être quand même vérifiées. Lutz, vous voulez continuer? Laissez-moi faire ce commentaire. J'aimerais avoir une approche pour que tout le monde qui traite avec les noms de domaine ait pour obligation de fournir un service WHOIS, le service WHOIS sans limitation. Il doit fournir ses propres services. Donc, les données DNS, toutes les données dont le registre a besoin et très difficile à interpréter. La communication est mauvaise. Il n'y a aucune donnée sur les contacts téléphone dans le registre. Du côté du registreur, on a le même serveur, service WHOIS, mais qui ne contient d'où viennent les données. Donc, on peut aller jusqu'au point final en fournissant des données correctes qui sont mises à jour en temps réel parce que il vient du point de données finales et il a été correctement inséré. De notre côté, il semble que ça donne la possibilité d'appliquer la loi locale. Ou même d'omettre cette donnée. Ça peut être très varié d'une législation à une autre. Donc, nous avons un système qui peut protéger les informations locales selon la législation locale, mais qui l'accepte de manière constante et globale. Merci. Merci beaucoup, Lutz. Je crois que nous sommes en retard. Donc, merci beaucoup pour vos rétroactions et les perspectives uniques de ALAC sur la confiance du consommateur. Et je suis très heureux d'avoir eu l'opportunité de vous rencontrer. J'espère que vous aurez des commentaires écrits, mais nous avons noté cela et nous apprécions vraiment l'opportunité de cette interaction. Merci. Merci beaucoup, Émilie, et bonne chance de la part de tous les groupes constitutifs at large. Vous avez beaucoup de travail devant vous. Merci.